Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le secrétaire d'État chargé du numérique. Vos questions 01 45 24 7000 sur l'application France Inter et via les réseaux sociaux. Bonjour Mounir Majoubi.
Bonjour.
Et merci d'être au micro de France Inter. Vous êtes le seul membre de La République En Marche à oser parler ce matin. Tous vos collègues, tous, je dis bien, les ministres, les députés, les secrétaires d'État, ils avaient tous piscine aujourd'hui.
Mais c'est parce que j'ai de belles actualités aujourd'hui qu'on va beaucoup parler de numérique. On va beaucoup parler d'inclusion, on va beaucoup parler de start-up.
Et pourquoi tout le monde se tait ? Et pourquoi tout le monde se tait ?
Parce qu'aujourd'hui, c'est une grande journée pour l'innovation, c'est une grande journée pour la transformation.
Donc le vieux monde n'a pas la parole.
Il a dit secrétaire d'État au numérique, c'est toujours bon ?
Je le souhaite, je l'ai redit au Premier ministre, je l'ai redit au Président de la République, je souhaite continuer. J'ai fait beaucoup de boulot depuis 16 mois et j'ai envie que ça dure.
Et vous êtes toujours attaché au Premier ministre ou ça pourrait revenir à Bercy comme à l'époque précédente ?
Vous aurez noté que le nouveau gouvernement n'a pas été nommé et que les seuls à avoir le secret de cette information sont le Premier ministre et le Président lui-même. Mais la réalité, on ne va pas se mentir, je ne vais pas vous parler de la composition de ce nouveau gouvernement. Le peu que j'en sais ne vous servirait à rien. Et les seuls qui décideront in fine, c'est le Président et le Premier ministre. Mais qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire que... on est là pour bosser, que si je sais pas le quoi, je peux au moins vous parler du pourquoi. Et on peut se dire que ce gouvernement...
C'est quoi le pourquoi?
Le pourquoi on est au gouvernement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on continue à s'accrocher? Pourquoi est-ce qu'on continue à faire nos réformes? Aujourd'hui, on est face à une incompréhension. On va pas se mentir, vous en parlez chaque matin. Chaque jour, je suis moi sur les marchés le week-end. J'ai fait des déplacements à travers la France. Et les gens me disent, on comprend pas là ce qui se passe. Bon bah, il faut regarder la situation. Il faut se dire, aujourd'hui, on a beaucoup transformé, on a beaucoup agi, mais on doit encore continuer à transformer, on ne doit pas s'arrêter, mais on doit redire pourquoi on est en train de le faire. Et le pourquoi, c'est permettre à chacun de choisir sa vie.
On va y
et
revenir.
Ça, les gens l'ont parfois oublié. Ce que nous souhaitons, c'est ce que parfois on appelle de façon très complexe l'émancipation. Mais l'émancipation, c'est permettre à chaque femme, chaque homme, de choisir sa vie, de trouver un boulot, de trouver une formation et de choisir la vie qu'il a voulu.
Vous voyez, on allait vous poser toutes ces questions-là, mais à la fin de l'interview, parce qu'on voulait commencer sur vos dossiers.
Oui.
Ah, vous
voilà. Et ben voilà, justement, on espère que le futur gouvernement ne circule pas sur Google+, le réseau social ancien de Google. 500 000 comptes ont été piratés, concernés par une brèche de sécurité. Google va fermer donc la branche particulière de ce réseau social. Est-ce que ces failles de sécurité sont en train de devenir les faits divers de l'âge numérique, c'est-à-dire quelque chose, une chose à laquelle il va falloir s'habituer et contre, au fond, laquelle on ne peut pas grand-chose?
Au-delà de l'histoire de Google hier, j'ai immédiatement contacté Google France en leur demandant de me dire si des Français sont concernés, mais au-delà.
Vous avez une réponse ?
Je n'ai toujours pas eu de réponse de leur part et j'attends une réponse dès ce matin. Écoutez, c'est arrivé hier soir, je les ai contactés dans l'heure dès que l'information était rendue publique et je leur demande de nous répondre.
Et pour Facebook, il y a 15 jours ?
Mais voilà, bien au-delà, c'est le cinquième événement en quelques mois. Aujourd'hui, il faut qu'on se rende compte que nos données personnelles stockées sur ces plateformes ne sont pas dans des coffres-forts, qu'elles peuvent fuiter. Et donc, ce que j'invite chaque Français à faire, vous pouvez retrouver sur mon compte Twitter les liens, c'est d'aller regarder les données personnelles qui sont stockées chez Google, qui sont stockées chez Facebook. Et quand vous les regardez, posez-vous une question. Si jamais elles fuitent, est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que si jamais elles sont, qu'elles circulent partout sur l'Internet, que tout le monde peut les télécharger, est-ce que je suis à l'aise? Si la réponse est non, alors supprimez-les. On est nous-mêmes responsables de nos propres données. On a pendant très longtemps cru qu'elles étaient toutes protégées, qu'on pouvait tout envoyer, qu'il n'y avait pas de règles à respecter. Et maintenant, on comprend que c'est grave, on comprend que c'est nous, et que ces données personnelles, bah, c'est un prolongement de soi, c'est son intimité.
Vous vous rendez compte de l'impuissance du politique à dire cela ? C'est-à-dire de l'impuissance face à la force de Google ?
Moi, je parle de la puissance du politique. Je dis aux gens...
Vous dites, enlevez vos données de l'Internet, c'est tout ce qu'on peut faire pour empêcher Google de les diffuser, de fuiter.
Absolument pas. Je vous dis... Les données personnelles aujourd'hui, on était dans la naïveté de croire qu'on pouvait laisser ces données comme ça sur une plateforme ou sur une autre et qu'elles seraient protégées pour la vie. Regardez chez vous, quelque chose de très important, vous ne le laissez pas devant votre porte, vous le mettez derrière une porte et vous fermez à clé. Quand c'est très très important, vous le mettez dans un tiroir bien caché et si ça vaut très cher, vous achetez un coffre et vous le cachez un peu plus loin. Mais pourquoi est-ce que pour les données en ligne, on fait pas la même chose? Pourquoi est-ce que parfois on se dit, bon, on les met, c'est bien protégé? C'est pour ça que la France et l'Europe, elle a mis en place des régulations.
Mais alors juste...
En France, on protège les données. Les données les plus sensibles de toutes les données, ce sont les données de santé. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait en France? On a fait des réglementations très strictes, très lourde sur la sécurité des données.
Avant de venir aux données de santé, encore un mot. Google, c'était hier soir. Facebook, c'était il y a plus longtemps pour la dernière crise en date. C'était il y a 10-15 jours, un peu moins de 15 jours. 50 millions de comptes piratés. Vous avez demandé à Facebook France combien de comptes français. Vous avez la réponse ou pas?
Alors, ils n'ont pas répondu sur le nombre de comptes français, mais...
D'où l'impuissance dont parlait...
Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Nous avons en France et en Europe le règlement général pour la protection des données. C'est une nouveauté. Oui. Depuis le mois de mai dernier, il y a maintenant des sanctions très graves que peuvent encourir ces plateformes, jusqu'à 1,5 milliard d'euros. Résultat, dès que Facebook l'a annoncé, il a été pris en charge par le régulateur européen. Et aujourd'hui, il est pris en charge par les régulateurs des différents pays où les comptes ont été concernés. Si Facebook ne répond pas aux questions de ce régulateur, si Facebook n'ouvre pas, il sera condamné à 1,5 milliard d'euros.
Mais il doit répondre quand? Parce que là, ça fait 15 jours.
Attendez, Facebook a répondu chaque jour sur les informations. Vous savez qu'on a choisi un régulateur indépendant qui n'est pas obligé de dire au gouvernement ce qu'il sait. Aujourd'hui, on a voulu faire un juge régulateur qui est suivi. Ça n'a pas empêché dès le lendemain au régulateur de dire « Je mets un avertissement, hello Facebook, ce que vous m'avez donné hier n'est pas suffisant. » Facebook a complété dès le lendemain. Donc je vous dis que ces plateformes nous écoutent, elles respectent le droit. Mais ce qui m'inquiète moi le plus, c'est cette prise de conscience que même ces plateformes aujourd'hui, avec ces obligations, elles déclarent ces failles, mais il y a eu ces failles. Donc je vais pas de façon... RGPD, c'est la réglementation la plus stricte au monde. Elle est tellement intéressante que les Américains sont en train de réfléchir à faire une réglementation du même type que la nôtre. Aujourd'hui, l'Europe protège les Européens, l'Europe protège les Français. Et sur les données les plus sensibles, on est encore plus strict.
Alors, on l'entendait dans le journal de 8 heures, il faut en moyenne 80 jours pour obtenir un rendez-vous d'ophtalmo ou de dermato en France. On comprend du coup pourquoi l'assurance maladie a donné son feu vert à la téléconsultation. Les données de santé des Français, Mounir Majoubi, sont secrètes, destinées à leur essai. Moi, j'ai jamais eu peur de ma carte vitale. Est-ce que vous pouvez garantir à ceux qui nous écoutent une sécurité à 100% si on décide de consulter un médecin en ligne ?
La question ne concerne pas que la consultation en ligne, elle concerne le stockage des données de santé en général. Sur ce sujet, la France, on lui a souvent reproché d'avoir des réglementations trop strictes. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes très fiers d'être un des pays qui a les réglementations les plus strictes sur les données de santé.
Mais là, il y a un nouveau front qui s'ouvre, celui de la consultation en ligne.
Oui.
Donc, est-ce que là, c'est sécurisé et comment?
Eh bien, nous avons mis en place des conditions pour assurer ces consultations de sécurité extrêmement élevées. Nous sommes le pays qui impose les règles de sécurité les plus élevées sur les données de santé. Les plus élevées, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le serveur où c'est stocké doit respecter des données de sécurité. Les échanges entre la personne et le médecin doivent respecter des niveaux de sécurité. Et ces niveaux de sécurité, c'est simple, c'est le maximum absolu qui existe aujourd'hui dans les standards de sécurité.
La vidéo, elle est validée par l'État, techniquement?
Alors, l'État ne valide pas, l'État
certifie. Ou c'est des entreprises?
Non, l'État certifie des niveaux de sécurité. L'État certifie des niveaux de sécurité. On a l'ANSSI qui certifie les hébergeurs de données de santé. Les hébergeurs de données de santé doivent respecter un cahier des charges très particulier.
Mais qui sont des entreprises? C'est ça ma question, Mounir Majoubi.
Qui sont des entreprises
de la santé sur Internet.
Aujourd'hui.
Doctissimo, par exemple.
Attention, vous confondez Doctolib et Doctissimo. Doctissimo, c'est le forum où tout le monde est.
Oui, c'est ça, d'accord.
Doctolib, pour stocker des données de santé, respecte les plus hauts standards de sécurité sur
Facebook.
Le stockage des données.
Non, comme Facebook.
Pas du tout. Facebook n'est pas du tout au niveau de sécurité du stockage des données de santé. Parce que Facebook considère qu'il stocke des données personnelles qui ne sont pas de ce niveau-là. Vous savez, stocker des données
de
santé...
Vous essayez de nous rassurer, mais en fait, c'est terrible. On est inquiet.
Et c'est pas très rassurant.
Et c'est pas, là, vraiment, ça dépasse le cadre du politique. C'est vrai que c'est quelque chose qui inquiète tout le monde. Et là, de savoir que peut-être tout va bien se passer et peut-être que Doctolib, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, révélera que Nicolas Demorand est malade ou que je suis malade ou que vous êtes malade, Mounir Majoubi.
Pendant longtemps, on nous a reproché en France d'empêcher les innovations sur le numérique de santé. Pourquoi? Parce qu'on est le pays, à chaque fois qu'une start-up avait une nouvelle idée, qui imposait le plus grand coût pour rentrer sur le marché parce qu'on leur demandait d'avoir des niveaux de sécurité que les start-up n'arrivaient pas à atteindre. C'est pour ça qu'il y en a peu, mais que les quelques-unes qui y arrivent, comme Doctolib. Doctolib, je veux quand même rappeler que c'est une boîte française qui a plusieurs centaines de salariés, qui est en train de révolutionner la santé en France et en Europe, et qui peut devenir le leader mondial de la santé dans les prochaines années. Faut qu'on soit fiers un peu aussi de nos boîtes.
On parle de sécurité, et il y a la fierté,
pardonnez-nous d'être ancien monde,
je vous répète,
mais on a des craintes.
Nous avons le plus haut niveau de sécurité. Il nous est reproché par tous les acteurs mondiaux qui disent c'est impossible de faire de la santé connectée en France parce qu'ils demandent trop. Aujourd'hui, on est fiers de demander trop.
Non mais vous comprenez la question, Mounir Irma Joubi, puisque il y a quelques mois à ce micro, vous disiez que les applications de messagerie, qui sont censées être extrêmement sécurisées, cryptées de bout en bout, pouvaient être dangereuses et que vous-même, le gouvernement, alliez créer une application pour que ce soit, pour le coup, extrêmement sécurisé. Donc, se dire que des entreprises, maintenant, vont rentrer dans nos données de santé, c'est inquiétant.
Malheureusement, Nicolas Demorand, je vous fais une grande annonce. Vos données de santé sont stockées par des entreprises depuis des dizaines d'années.
Par des médecins.
Vous croyez que
par
le médecin
les
stocke
pas des
tout seul?
Entreprises.
Mais non, le médecin, il n'est pas informaticien, il n'est pas hébergeur serveur. Alors quand il avait des petites fiches, oui, mais tous les médecins, ils ont un prestataire. Tous les hôpitaux, ils ont des prestataires. Vous croyez qu'on arrive d'un coup dans le numérique? On n'arrive pas dans Internet aujourd'hui. Ça fait 30 ans qu'on est dans Internet. Ça fait 30 ans qu'il y a des serveurs de données dans les hôpitaux. Ça fait 30 ans
qu'il aurait fallu s'inquiéter plus tôt.
Et c'est pour ça que nos règles françaises.
Les hypochondriaques du numérique.
C'est pour ça que nos règles françaises, si elles sont si exigeantes, si elles sont si dures, si on reproche tant à la CNIL, qui est notre autorité de régulation et de protection des données personnelles, je lui ai reproché parfois d'être trop dans le contrôle. Eh bien, en fait, aujourd'hui, c'est ça qui va permettre l'innovation.
Mounir Majoubi, autre sujet, la loi fake news, elle en est où?
Elle va revenir dans les prochains jours, prochaines semaines au Parlement.
Parce que la commission mixte paritaire a échoué à trouver une position commune entre le Sénat et les députés. La définition des fake news est jugée trop floue par tous les groupes, à part La République En Marche, de la France Insoumise au Rassemblement National. Pourquoi est-ce que vous n'y renoncez pas?
Nous ne pouvons pas renoncer à l'idée de se protéger de la manipulation de nos élections. Cette loi fake news, elle ne concerne qu'une période, c'est celle des élections. On ne peut pas se laisser se faire voler nos élections. On a vu ce que ça fait aux États-Unis, on a vu ce que ça a fait dans d'autres pays dans le monde. Il faut que nous ayons les outils en période électorale pour avoir les informations.
Pourquoi vous n'arrivez pas à convaincre les autres groupes ?
Je n'ai pas du tout renoncé. Je suis convaincu que nous arriverons à les convaincre. Je veux qu'on ramène le débat au bon endroit. Le débat tel que vous l'avez désigné, on n'a pas réussi à définir ce qu'est une fake news. Malheureusement, c'était pas ça l'essentiel de cette loi. Cette loi, elle n'est pas là pour dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Cette loi, elle est là pour dire, vous, plateforme, vous avez une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de donner de l'information quand vous identifiez qu'il se passe quelque chose. C'est ça qu'elle dit, cette loi. Cette loi, elle ne redéfinit pas le vrai. On va pas faire une loi qui dit, ça c'est vrai, ça c'est faux. Elle dit, on va pas laisser un pays étranger, on va pas laisser des forces étrangères investir de l'argent dans notre espace médiatique ici pour manipuler l'opinion des Français. C'est tout ce que veut dire cette loi.
Oui, mais manifestement, vous n'arrivez pas à convaincre. Ça fait plusieurs mois qu'elle est à l'Assemblée nationale et au Sénat et ça ne marche pas. On devrait unanimement être pour,
bravo.
Non.
Eh bien, c'est pour
et
ça
c'est
qu'il
cas.
Faut que nous concentrions nos débats. Et je prends, hein, et avec la ministre de la Culture, nous prenons. Il y a eu un débat qui ne s'est pas porté au bon endroit. Eh bien, on va le ramener au bon endroit. On veut protéger la France pour les prochaines élections européennes. On veut protéger la France pour toutes les prochaines élections qui viennent. Les Français doivent librement faire leur choix et doivent librement s'informer.
Quelle est votre position, Mounir Majoubi, sur le fait de taxer les tablettes pour financer l'audiovisuel public? Y êtes-vous favorable, comme Christophe Castaner, qui avait défendu cette idée?
Écoutez, j'ai entendu ces propositions, on n'a pas fini d'en débattre ensemble. Le grand sujet, c'est comment...
C'est sur la table encore ?
Il y a eu un rapport qui a été rendu qui proposait de ne pas l'appliquer à une tablette, mais d'universaliser une taxe sur l'audiovisuel. La question, et c'est pour ça qu'elle n'est pas tranchée, il y a eu un rapport parlementaire, maintenant il faut le travail du gouvernement, et puis c'est une réponse, c'est un dialogue. La grande question des prochains mois, c'est comment on finance un audiovisuel public, comment on pense l'ère future de l'audiovisuel public à un moment où l'objet écran ne se définit plus comme une télévision. L'objet écran, il est multiple, vous-même dans vos vies, et notamment les 16-25 ans, eux ne savent même plus ce qu'est la télé. Moi, je peux vous dire, je ne sais pas ce que c'est la télé, parce que pour moi, la télé, c'est à la fois l'objet qui est dans mon salon, mais qui me sert aussi à aller sur Internet, c'est aussi ce que je regarde en replay sur mon portable, c'est
donc
aussi ce que j'ai à la tablette.
Donc, il faudrait une tablette. Il faudrait aller vers ça.
Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'est la meilleure façon de le faire. Le fait de mettre une taxe pour l'audiovisuel, appelons-la comme ça, la redevance, appliquer un objet qui aujourd'hui a vocation à ne plus exister, nous oblige à reposer toutes les questions et à tout poser sur la table.
Allez, le remaniement, qu'est-ce qui va changer au-delà des entrants et des sortants? Qu'est-ce que vous espérez? Est-ce que vous espérez un nouveau souffle dans le futur gouvernement? Est-ce que vous avez compris des choses? Qu'est-ce que vous avez entendu? Voilà, qu'est-ce que vous, Mounir Majoubi, attendez?
Vous avez raison de me poser la question, je vais vous répondre personnellement. Comme ça, je n'ai pas à engager le président ou le premier ministre. Ce que j'attends de ce moment qui arrive, il va y avoir l'annonce de ce gouvernement. Je ne sais pas quelle sera l'ampleur du changement. Je ne sais pas qui partira, qui arrivera. Mais il y a deux nécessités. La première, c'est d'être encore plus présent partout en France. J'ai été la semaine dernière dans les Pyrénées-Atlantiques. Je vais chaque semaine dans de nouveaux territoires où on discute avec les élus, où on met en place des initiatives sur le numérique, par exemple, sur le pass numérique qu'on lance dans de très nombreux départements dans quelques semaines. Et je me rends compte qu'on doit passer plus de temps et faire plus de choses au quotidien dans la co-construction avec les territoires. Ça, ça doit devenir la nouvelle normalité de ce gouvernement. Le deuxième élément, moi je viens du syndicalisme salarié. J'ai été 8 ans délégué syndical. Je crois très très fort à la nécessité absolue d'aller plus loin dans la confiance que nous avons avec les syndicats progressistes, que nous devons aller plus loin dans l'écoute avec ces syndicats. Et ça, ça fait partie.
Donc si je vous entends et que je vous traduis, ça veut dire que dans un premier temps, le gouvernement a peut-être été, et le président, trop vertical et n'a pas assez entendu les corps intermédiaires, à savoir les élus locaux et les syndicats. C'est
vous
ça
que
vous dites ?
Vous ne m'avez pas entendu dire que je trouve qu'on les a ignorés. Je dis
j'ai
qu'on doit
dit,
faire
beaucoup
plus.
J'ai pas dit ignorés. J'ai dit pas suffisamment entendu.
À titre personnel, je veux que nous y allions beaucoup plus. Et je crois, si vous écoutez ce qu'a dit le président depuis plusieurs semaines et le Premier ministre, que c'est ce qui est notre énergie dans ce gouvernement. On va continuer la force de transformation, on va continuer ces grandes transformations économiques et sociales, mais on le fera ensemble.
Est-ce qu'à titre personnel, vous pensez que les futurs candidats aux municipales doivent faire comme Gérard Collomb et démissionner tout de suite du gouvernement ?
Que les candidats qui deviennent des candidats qui ont créé... Gérard Collomb a fait une grande annonce, quasiment annoncé son programme, lancé son association de financement. Il est candidat à Lyon et il a décidé de démissionner. C'est une très bonne chose.
Et vous ?
Je ne suis pas candidat. Je sais que on a beaucoup parlé de Paris ces dernières semaines.
Vous avez beaucoup parlé de Paris.
Oui. Nous tous, vous aussi, moi aussi. Pourquoi ? Parce que
nous
c'était.
Nous ne sommes pas candidats.
Nous, pour le coup, c'est sûr et certain. Mais vous avez votre agenda de démission.
On a des élections européennes qui arrivent. On a des élections municipales qui suivent. On a un mouvement qui est le premier mouvement politique de France. Et bien ce mouvement, il se prépare pour les européennes, il se prépare pour les municipales. Je suis élu de Paris. Je suis né et j'ai grandi à Paris et je suis un acteur actif du mouvement à Paris. C'est pour ça que vous m'avez vu beaucoup parler de Paris. Aujourd'hui, je ne suis pas candidat. Aujourd'hui, je suis pleinement ministre. Aujourd'hui, je suis très actif sur les transformations numériques de la France. Je voyage à travers la France sur ces sujets. D'ailleurs, le plan d'inclusion numérique, il est notamment un plan pour les quartiers populaires et la ruralité. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le moment de parler des candidats à Paris. Et ceux qui en parlent aujourd'hui, eh bien, je pense, se trompent.
Vous avez déclaré au Figaro, nous devons passer d'une ville de gestionnaires politiciens à une ville d'entrepreneurs concernant Paris. Est-ce que ça veut dire qu'après la Startup Nation d'Emmanuel Macron, vous voulez faire une Startup City dans Paris ?
Je veux vous dire que c'est pour moi une morale de l'action et au niveau national, et au niveau local, et au Parlement. Comment y pense un entrepreneur ? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui regarde des ressources limitées, des ressources financières, des ressources humaines, des ressources naturelles, et qui se pose toujours la question, comment j'utilise le moins de ressources pour avoir le maximum d'impact ? C'est ce que je fais en tant que ministre, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse à tous les échelons de la nation.
Des chefs d'entreprise de la nation et des villes ?
Mais des chefs d'entreprise, c'est pas pareil qu'un ministre, c'est pas pareil qu'un maire. C'est la pensée de l'entrepreneur, c'est l'ambition avec des ressources limitées pour avoir le maximum d'impact. Mais l'intérêt général, c'est pas l'entreprise. C'est pour ça, quand on est ministre, mon impact, c'est pas que l'argent et le profit. Mon impact, c'est qu'est-ce que je fais pour le monde.
Beaucoup de questions au Standard d'Inter. Bonjour Aude, bienvenue.
Bonjour, merci. Alors moi, je voulais relater une expérience et poser une question à M. Majouri. Je dois passer une IRM. J'ai reçu par mail un questionnaire de santé avec une ordonnance de la part du CHU de la ville dans laquelle j'habite. Questionnaire IRM et ordonnance non protégée, donc des documents Word. Donc une ordonnance que je peux trafiquer, je peux rajouter ce que j'ai envie, aller à la pharmacie. Et que je dois renvoyer ensuite par mail. Donc j'étais un petit peu choquée qu'en 2018, puisse nous adresser ça. Ma question est, quelles sont les données quels sont en fait les moyens de contrôle qui sont mis en place pour vérifier, parce que c'est bien, il y a des lois, vous nous dites que c'est très surveillé, les moyens de contrôle et puis les moyens de formation, en fait, comment on puisse encore en 2018 envoyer ce type de document par mail avec des données confidentielles pour des examens assez poussés,
merci.
Et notamment l'ordonnance aussi.
Oui, merci Aude pour cette question. Mounir Majoubi vous répond.
Aude, vous avez raison d'être choquée, c'est évidemment une erreur de la personne, alors il ne faut pas stigmatiser la personne. Vous avez vous-même apporté la solution, cette personne n'a pas été formée. Le fait qu'elle vous ait envoyé des données aussi sensibles, qu'elle vous ait demandé de les renvoyer par le moyen le moins sécurisé au monde, qui est l'email, il faut le rappeler, l'email, c'est tout sauf sécurisé. C'est pratique, mais c'est zéro sécurité. C'est contre toutes les pratiques aujourd'hui de réglementation sur l'échange de données de santé. On a mis en place avec la ministre de la Santé l'ordonnance virtuelle. Et ça va être un grand déploiement avec la sécurité sociale sur les prochaines années. Comment on sécurise l'ordonnance entre celui qui prescrit et jusqu'au pharmacien? Comment, grâce à la virtualisation, au contraire, on empêche les fausses ordonnances, on empêche les fausses attributions? Eh bien, ça, c'est ce que va permettre le numérique. Ce que vous avez vécu, c'est quelque chose qui doit évoluer, qui doit changer. Et en cas de contrôle, ce sont des pratiques qui sont immédiatement sanctionnées.
Retour au standard. Bonjour Jean-Marc, bienvenue.
Bonjour à tous, merci à France Inter. Monsieur Mazoubi, je vous ai entendu déclarer à ce même micro qu'il y avait une procédure, certes compliquée, mais qui existait pour refuser le Linky. Depuis, vous avez reçu des courriers d'associations qui sont restés sans réponse. J'ai bien entendu que vous aviez beaucoup travaillé depuis 16 mois. Malheureusement, on n'a pas eu la chance d'être dans ce calendrier.
Merci Jean-Marc.
Qu'en est-il de cette question? C'est une fake news?
Merci Jean-Marc pour cette question sur le fameux compteur électrique Linky. Mounir Majoubi.
Compteur Linky qui fait l'objet toujours d'une question à chaque fois que je viens sur France Inter.
Bah, il fait toujours l'objet de refus et de débats.
Il faut rappeler ce que Linky va faire à la planète. Linky, ça permet de consommer mieux l'énergie, ça permet de consommer de façon plus intelligente l'énergie. Et au global, Linky, ça fait du bien. J'ai dit, peut-être, quand j'étais ici, qu'il y avait une procédure. Le mot, c'est pas procédure. C'est que si vous dialoguez avec Enedis, si vous parlez avec l'installateur, Enedis est dans le dialogue avec vous. Mais Enedis est dans une stratégie, l'a annoncé. L'objet, c'est bien de remplacer l'intégralité des compteurs en France. Mais ça ne se fera jamais dans la violence. Ça ne se fera jamais. Il n'y a jamais un policier qui va venir chez vous pour installer le compteur. Donc c'est ça que j'ai voulu dire.
Donc si en dernière instance, ce dialogue débouche par « non, je n'en veux pas », c'est possible.
Il n'y a pas la police qui vient chez vous pour vous forcer votre porte et vous mettre un compteur Linky. Merci. Mais la volonté, c'est bien d'avoir ces compteurs connectés qui nous permettent d'économiser et de sauver la planète.
Merci Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, d'avoir été au micro
Merci
de
beaucoup.
France Inter ce matin.